Les sciences sont une source inépuisable d'étonnement, de fascination, de découverte ou d'interrogation. Embarquez dès maintenant pour un nouveau voyage au cœur des sciences. L'abominable Yeti dans les aventures de Tintin ou encore le Kraken dans Pirates des Caraïbes. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous rêviez de côtoyer ces créatures légendaires? Peut-être aviez-vous envie aussi de devenir chasseur ou chasseuse de monstres? Eh bien, figurez-vous qu'il existe une branche très sérieuse de la recherche scientifique qui s'attache à prouver l'existence ou non de ces créatures mythiques. Il s'agit de la cryptozoologie. En cette fin d'année 2019, on vous propose une plongée dans le monde des créatures inconnues de la science, entre science, mythe et canular, avec Aude Bougeot, médiatrice scientifique à Altec. Bonjour Aude.
Bonjour Camille.
Alors, on va le voir aujourd'hui, on traite d'un sujet qui peut paraître un petit peu loufoque, voire peu scientifique. Et pourtant, on le verra plus tard, la cryptozoologie a permis à plusieurs reprises de prouver l'existence d'animaux que l'on pensait jusque-là totalement imaginaires. Avant ça, est-ce qu'on peut définir exactement ce qu'est la cryptozoologie ?
Alors oui, la cryptozoologie, c'est une branche de la biologie qui étudie les animaux dont l'existence n'est pas prouvée scientifiquement. Donc le terme cryptozoologie vient du grec, cryptos pour cacher, zoon pour animaux et logos pour étude. Et en fait, littéralement, c'est l'étude des animaux cachés, comme le yéti, le kraken dont vous parliez au début.
Le yéti, le kraken, c'est des monstres qui sont bien ancrés dans l'imaginaire collectif et qui sont du coup étudiés par la cryptozoologie. Mais on peut aussi penser à d'autres animaux mystérieux comme les dragons ou encore les licornes, très populaires en ce moment. Est-ce que eux aussi sont concernés par la cryptozoologie ?
Alors, la définition de ce qui est du ressort ou pas de la cryptozoologie, elle est compliquée. En fait, la cryptozoologie, elle s'intéresse à cet entre-deux, donc à cette zone d'ombre qui se trouve à l'interface entre la zoologie, la science qui étudie les animaux, et les légendes. Donc, en fait, plus simplement, elle étudie tous les animaux énigmatiques qui résident entre la réalité et le mythe.
Mais du coup, comment on fait pour être entre la réalité et le mythe? Qu'est-ce qui existe?
En fait, dans la zoologie, on connaît une espèce grâce à des preuves de son existence et aussi grâce à l'observation de spécimens, donc qu'ils soient vivants ou morts. Et dans les légendes, on n'a ni indice, hormis tous les récits imaginaires, ni spécimens. Donc la cryptozoologie, elle est à cette interface entre les deux, parce qu'on n'a jamais observé de spécimens. Par contre, on a des indices de l'existence de l'animal. Et d'ailleurs, les cryptozoologues ne parlent pas de monstres, mais de cryptides. Et il existe entre 200 et 250 cas d'études.
Qu'est-ce que vous entendez exactement par indice d'existence? Qu'est-ce qui donne des clés aux cryptozoologues?
Alors, en gros, on va avoir tous les témoignages. Donc, les témoignages oculaires, auditifs, sensoriels, voire même gustatifs, si jamais quelqu'un aurait par hasard déjà mangé le monstre du Loch Ness. Les empreintes physiques, c'est-à-dire les empreintes de pas, les photographies ou les marques d'agression. Et tous les éléments anatomiques, comme les écailles, les poils ou le sang.
Ouais, alors on le disait en introduction, hein, le sujet d'étude peut paraître un petit peu loufoque et pourtant la cryptozoologie, elle prend très au sérieux cette étude des monstres cachés, de ces cryptides comme vous les appelez, et ce notamment grâce à une réelle démarche d'investigation.
Tout à fait. Les cryptozoologues y revendiquent une vraie démarche scientifique pour démontrer l'existence ou non de ces cryptides. D'ailleurs, le biologiste Benoît Grison a défini le travail d'un cryptozoologue en 4 étapes. Donc premièrement, un cryptozoologue va collecter et recouper des témoignages pour dresser un portrait robot de l'animal. Ensuite, il va essayer de déterminer l'endroit où l'on pourrait trouver le cryptide. La 3e étape, c'est la recherche de toutes les preuves anatomiques dont on a parlé un peu plus tôt. Et la finalité de tout ça, c'est la capture d'un spécimen vivant.
Qui prouverait du coup l'existence de ce monstre, ou en tout cas dans la vie réelle. Alors, ces recherches, elles s'appuient sur des preuves et des protocoles, vous venez de le détailler. Est-ce que du coup, on peut dire que c'est une science, une vraie science, entre guillemets?
Alors, Plus ou moins. Elle reste encore assez controversée dans le monde scientifique. Certains chercheurs parlent même de pseudo-science, décrivant plus un passe-temps de fans de fantastique ou de chasseurs de monstres. Et il faut dire aussi qu'il y a eu pas mal de canulars au fil des ans qui ont un peu mis à mal sa crédibilité. Mais malgré tout, la recherche cryptozoologique s'appuie sur des méthodes utilisées par des sciences dites dures, comme la zoologie, la paléontologie ou l'anthropologie. Donc ça repose quand même sur des procédés concrets.
Et la cryptozoologie, du coup, est-ce que c'est une nouveauté dans le monde scientifique ?
Alors encore une fois, oui et non. C'est-à-dire que telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une discipline relativement récente, à l'échelle de l'histoire de la science bien sûr. Donc en gros, ça date des années 50, avec l'apparition du livre « Sur la piste des bêtes ignorées ». Donc ce livre a été écrit par un zoologiste belge, Bernard Heuvelmans, qui est connu aujourd'hui comme le père de la cryptozoologie. Et dans ce livre, il décrit tous les animaux présumés disparus ou encore non découverts.
Et pourtant, certains de ces monstres sont, on le disait, ancrés dans l'imaginaire collectif depuis des siècles.
Oui, c'est vrai. Figurez-vous que déjà au XVIIe siècle, le chercheur danois Erik Pontoppidan avait consacré un chapitre de ses recherches zoologiques aux monstres des mers du Nord. Et en fait, il avait interrogé des marins pour faire des hypothèses sur l'existence des sirènes et des kraken.
Bulle de science. Alors maintenant qu'on l'a vu en quoi consistait exactement la cryptozoologie, ce serait intéressant d'explorer ensemble quelques cas de cryptides, à commencer par l'un des plus connus sans doute et qui a aussi la particularité d'avoir alimenté des légendes aux quatre coins du monde. Tour à tour on va l'appeler le Yeti, en tout cas c'est le nom qu'on lui donne au Népal, parce qu'on le retrouve aussi sous le nom d'Almasti en Russie ou encore de Bigfoot en Amérique du Nord.
Oui, chez nous on l'appelle aussi l'abominable monstre des neiges. Et selon les différentes versions, ce serait une créature mi-homme, mi-animal. Donc souvent, il est mélangé avec un loup, un ours ou encore un singe. Mais au-delà de tous ces récits, la légende elle a aussi été étoffée au fil des ans par des photographies, souvent de mauvaise qualité, ou encore des traces d'empreintes.
Ouais, et ça, c'est donc les fameux indices d'existence. Et c'est là où on voit aussi tout le travail du cryptozoologue, qui en premier lieu doit vraiment démêler le vrai du faux, et notamment repérer les canulars.
Ouais. Repérer les canulars, c'est une des premières missions du cryptozoologue. Et d'ailleurs, dans le cas du Yeti, les recherches ont souvent été brouillées par de faux indices, comme des fausses traces de pas ou de faux scalpes ou encore de faux poils.
Alors Aude, à ce stade, pas de confirmation de l'existence du fameux abominable homme des neiges.
Et non, désolé, toujours pas. D'ailleurs, certains naturalistes pensent tout simplement que les témoins des apparitions de ce monstre des neiges ont vu des animaux déjà répertoriés, donc déjà connus. Et en fait, au Tibet, le mot Yeti signifie ours rocheux. Et dans ces montagnes, il existe l'ours bleu qui se met facilement sur deux pattes. Donc dans une tempête de neige, on peut facilement se tromper sur ce que l'on voit.
Et puis prendre un monstre pour tout simplement un ours qui serait passé par là. Alors un autre cas de la cryptozoologie qui est bien connu du grand public, c'est celui du fameux monstre du Loch Ness. Et dans ce cas-là aussi, il est parfois difficile de s'y retrouver entre les mythes, la science et les différents canulars.
Alors oui, l'histoire du monstre du Loch Ness en Écosse, elle est un peu compliquée, elle ne date pas d'hier, puisque les chercheurs ont trouvé des écrits décrivant le monstre Nessie dès les années 500. Mais c'est vraiment à partir des années 1930 que de véritables recherches et expéditions scientifiques ont été lancées. Donc le lac a notamment été sondé à l'aide de sonars, des caméras de surveillance ont été installées, mais encore aujourd'hui on n'a obtenu aucun résultat probant.
Ouais, et pourtant il y a pas mal de témoignages qui se recoupent en plus, qui décrivent une sorte de dinosaure qui fait plusieurs mètres de long avec un long cou et plusieurs bosses sur le dos.
Oui, alors bien sûr, c'est pas exclu qu'un animal aquatique vive dans le Loch Ness, mais les chercheurs ont fait des calculs, notamment par rapport à la taille du lac, et c'est scientifiquement impossible qu'une créature aussi imposante de plusieurs mètres de long avec des bosses puisse survivre dans cet environnement, et notamment à cause du manque de nourriture.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que tous les témoignages sont faux ?
Alors, pas forcément, parce que les témoins, ils ont bien vu quelque chose, mais on peut l'expliquer autrement. Donc, ça va paraître un peu décevant pour les amateurs d'histoire de monstres, mais l'hypothèse la plus plausible est celle des anguilles.
En effet, ça vend moins du rêve.
Et oui, mais des échantillons d'eau ont été recueillis pour effectuer des analyses et les chercheurs ont retrouvé une quantité importante d'ADN d'anguilles. à savoir qu'une vieille anguille peut mesurer plusieurs mètres de long.
Alors, il y a l'hypothèse des anguilles, mais on peut dire quand même que le mystère du Loch Ness reste entier. Et préciser aussi que ça ne déplaît pas aux professionnels du tourisme qui ne vont pas se plaindre de cette histoire de monstre qui a quand même permis de faire connaître cette région de l'Écosse à travers le monde. La cryptozoologie, elle répertorie de nombreux cas de cryptides, hein, vous le disiez, entre 200 et 250 cas d'études, mais ils ne sont pas tous aussi farfelus que le Yeti ou encore le monstre du Loch Ness. Et d'ailleurs, la cryptozoologie, elle peut avoir un réel intérêt pour la science.
Oui, oui, c'est bien vrai. La cryptozoologie, elle cherche à prédire les découvertes d'espèces, donc c'est-à-dire qu'elle anticipe et veut provoquer des découvertes zoologiques à partir de tous les indices qui ont été récoltés, notamment les savoirs populaires ou les preuves matérielles. Et ça a été le cas pour l'ornithorynque, qui restait longtemps une chimère aux yeux des naturalistes, alors que tous les peuples océaniens le connaissaient déjà et l'avaient déjà décrit depuis plusieurs siècles.
Et puis c'est vrai, comme animal légendaire, on ne peut pas faire mieux. L'ornithorynque, c'est cet animal un petit peu bizarre entre le canard et le castor. Il y a de quoi imaginer quelque chose de tout à fait imaginaire.
Oui, entre le canard et le castor. Et justement, l'ornithorynque, c'est un des exemples de cryptides dont l'existence a été démontrée et que l'on connaît très bien maintenant. Et finalement, dès que l'existence du cryptide est confirmée, il ne fait plus partie de la cryptozoologie, mais rentre dans le domaine de la zoologie.
Alors justement, en termes de découverte d'espèces, il y en a entre 15 000 et 20 000 espèces animales ou végétales qui sont découvertes chaque année. Et pourtant, les scientifiques estiment que seulement 15% des espèces vivantes sont connues et répertoriées. Et c'est là où on se rend compte finalement que la cryptozoologie, elle pourrait très bien amener à la découverte d'autres grands animaux dont on ignorait totalement l'existence ou uniquement à travers les savoirs populaires. Et ce fut le cas par exemple pour l'okapi.
Oui, alors l'okapi, c'est un parent de la girafe, donc un animal rayé qui peut aussi faire penser à un zèbre. Et on l'a découvert au début du XXe siècle grâce aux témoignages de tous les locaux et aussi aux indices matériels. Donc on a retrouvé des crânes, des fragments de peau. Et plus tard, les scientifiques ont réussi à observer l'animal et à confirmer son existence.
Alors, on avait parlé aussi un peu plus tôt des marins au XVIIe siècle qui craignaient, qui redoutaient le kraken, hein, un énorme monstre marin doté de tentacules redoutables qui était capable de détruire les navires et les emmener par le fond. Là encore, la cryptozoologie a rattrapé le mythe.
Oui, le fameux kraken qui nous fait penser au calamar géant. Donc un animal qui est resté pendant longtemps très mystérieux et qui continue encore de nous fasciner. L'existence du calamar géant a pu être confirmée grâce aux quelques spécimens qui ont été retrouvés morts dans des filets de pêche ou échoués sur les plages. Mais c'est seulement en 2012 que les scientifiques ont pu filmer pour la première fois un spécimen vivant dans son milieu naturel au large des côtes japonaises.
Je me souviens avoir vu du coup ces images de calamar géant dans un documentaire. Et c'est vrai que même si on est loin du monstre décrit comme le kraken, on est quand même sur un animal très impressionnant.
Alors oui, on n'a pu observer que très peu de spécimens, mais c'est un animal gigantesque qui a 10 tentacules et peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. Après, que ce soit l'okapi ou le calamar géant, ce ne sont pas les seuls exemples d'animaux légendaires qui ont été de véritables révélations pour le monde scientifique. On peut aussi citer le sélacanthe indonésien, le dragon de Komodo ou encore le tapir d'Asie.
Aude, du coup, si on a envie nous-mêmes de devenir chasseurs de monstres, comment fait-on pour devenir cryptozoologue ?
Alors, pour le moment, c'est un peu compliqué. Il n'existe aucune formation universitaire préparant à ce métier, ni aucun institut scientifique officiel. D'ailleurs, les scientifiques dont on a parlé sont en fait des zoologues ou des naturalistes. Mais au-delà du côté loufoque, voire fantastique de ces recherches, la cryptozoologie, elle permet parfois vraiment de réelles avancées scientifiques, notamment dans la découverte de nouvelles espèces.
Alors que tous les passionnés de monstres, d'animaux fantastiques et d'histoires légendaires se rassurent, il existerait dans chaque légende une part de vérité, même infime soit-elle. La cryptozoologie, elle octroie à ces mythes le bénéfice du doute pour continuer de nous faire rêver et parfois même nous émerveiller quand la réalité rejoint la fiction. Merci Aude.
Merci Camille.
Au nom de toute l'équipe d'Altech, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Continuez de rêver et quant à nous, on se retrouve en 2020 pour une prochaine bulle de science. Retrouvez toutes les chroniques d'Altech sur le site de Radio B, radio-b.fr. À bientôt.